France Culture. Les nuits de France Culture. Beau gosse, sympathique, au caractère bien trempé de winner, pas arrogant pour un sou, mais un poil insolent et peu adepte de la fausse modestie, Guy Dru avait tout pour séduire, mais tout autant pour défriser, les foules d'un pays qui, d'Anctil à Michel Platini, en passant par Jean-Claude Killy, a souvent eu du mal à chérir sans réserve ses très grands champions. Mais le temps a passé, les Jeux Olympiques ont défilé, la vie politique a suivi son cours, et même parmi ceux qui trouvaient à y redire, quand son nom était en haut de l'affiche, bien peu contesteraient à présent que Guy Dru ait été l'un des plus indiscutables champions de l'histoire du sport français et l'une des plus belles médailles d'or des Olympiades de son siècle. Dans l'excellent portrait en deux parties que lui consacraient Joël Spindel et Denis Soula sur Radio Bleu en l'an 2000, Guy Dru refaisait le chemin qui, de sa ville natale de Oigny dans le Pas-de-Calais, l'avait conduit à la plus haute marche du podium olympique du 110 mètres haies à Montréal en 1976. Dans le premier volet de ce portrait que nous allons entendre, évoquant avec chaleur la région minière où il avait grandi, Guy Dru rappelait notamment ce que ses succès devaient à cette région et aux éducateurs, aux entraîneurs, à Pierre Legrain notamment, qui tous avaient su le mettre sur les bons rails en ne manquant jamais de lui rappeler qu'il n'était pas impératif de se prendre pour un autre pour être à la hauteur de ses ambitions. La légende du sport, Guy Dru, première partie, Guy Dru ou l'histoire d'un homme pressé, une émission diffusée sur Radio Bleu le 4 juin 2000.
13 secondes, 6 dixièmes, Guy Dru a égalé le record de France du 110 mètres haies. Cette performance va maintenant lui donner confiance pour la suite de sa saison écoutée.
Je crois que dorénavant, j'aurai beaucoup plus confiance en moi encore et ce sera les résultats s'en ressentiront quand même.
Est-ce que vous avez été impressionné, Guy, par la façon de courir le 110 des phénomènes américains Hill et Walker ?
Ah, pas du tout. Alors là, pas du tout, parce que justement, au départ aussi, je me demandais ce qui allait m'arriver. Il y avait quand même un recordman du monde et un type qui avait fait 13-3. Mais maintenant, je peux dire que ils sont forts, mais pas inaccessibles.
Interrogé par les actualités de France Inter le 19 juillet 1970, il y a presque 30 ans, ce jeune athlète possède déjà les caractéristiques d'un futur champion. La science de la course, la confiance en soi et l'envie de se dépasser.
Guy Dru a 20 ans et l'ambition d'être le meilleur est ancrée en lui. En 1970, il vient tout juste de décider de choisir le 110 mètres haies comme discipline de prédilection. Un choix qui le conduira vers la gloire olympique. Guy Dru ou l'histoire d'un homme pressé.
Guy Dru, vous venez d'une famille sportive. Votre grand-père était anglais et bon footballeur.
Tout à fait. J'ai un grand-père anglais. Il est venu jouer en France, à Calais. On en parle beaucoup, mais lui, c'était il y a longtemps. C'était pendant la guerre, la grande guerre, celle de 14-18. Après, bon, il était démobilisé, etc. Et donc, il a rejoué là, à Calais, dans les années 20. Et puis ensuite, il est venu à Thumry, ville d'où ils sont repartis pour l'Angleterre en 1947.
Vous aviez donc un bon exemple, Guy Dru. Vous-même, comment vous êtes venu à l'athlétisme ?
Oui, j'avais un bon exemple, puisque mon père était aussi footballeur. Ma mère ne faisait pas de sport, mais elle était très sportive dans son esprit. Et je suis venu à l'athlétisme un peu par hasard, parce que j'ai commencé par faire du football. Et puis, c'est avec quelques copains, en été, pour des minimes footballeurs, il n'y avait pas grand-chose à faire. On s'est dit, tiens, on va aller voir, on va aller faire un peu d'athlétisme. Et comme à l'époque, j'étais en plus très, très maigre, et que ma mère connaissait bien l'entraîneur, Pierre Legrain, puisqu'il était aussi de Thumry et qu'il avait aussi joué au football avec mon grand-père, elle est allée le voir en lui disant, mais est-ce que tu ne pourrais pas regarder un petit peu mon gamin, là, puis en lui mettre un peu de viande sur les os. Et puis voilà, c'est venu comme ça, tout simplement.
Vous organisiez déjà, paraît-il, des Jeux Olympiques avec vos camarades.
Oui. tout tournait autour du sport, quoi. C'est-à-dire que j'habitais juste en face d'un coron, d'une cité minière, hein, qu'on appelle un coron. Et j'avais deux petits cousins qui étaient, il y en a un qui était un peu plus jeune que moi et un qui était un peu plus âgé, qui habitait au fond du jardin. Et donc, mon père avait acheté un prêt qui était à peu près grand. À l'époque, ça nous paraissait aussi grand qu'un stade olympique, mais quand on y retourne, c'est à peine grand comme un terrain de tennis, comme un court de tennis. Là, j'ai organisé tout, quoi. Des lancers de javelot avec des petites baquettes de bambou, de la longueur, de la course. On faisait des relais dans la cité. Enfin, tout était prétexte à compétition sportive en particulier.
Didrude, vous êtes né à Oigny et dans cette petite ville, il y a un autre grand sportif, Michel Jazy. Et pour vous, ça a dû être un exemple. Il paraît que, comme vous avez vu les JO de 60 et les exploits de Michel Jazy, vous avez construit un petit podium dans le jardin.
C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, parce que moi j'adore la vérité. D'abord, quand j'ai pendant les jeux de 60, j'avais 10 ans. Donc, et c'était bon, j'avais entendu parler de Jazy, mais j'étais plus footballeur à cette époque-là. Mes idoles de 10 ans, c'était Coppa, c'était Piantoni, c'était Fontaine, c'était Glovaki, c'était les joueurs de football, et ceux, particulièrement ceux de la Suède ou du Grand Reims ou après du Grand Monaco. Et c'est plus tard qu'on construisait ces podiums dans le jardin, c'était plutôt dans les années 63-64. Mais c'est vrai que je suis né non seulement dans le même village, mais dans la même rue que Michel Jazy. Et dans la maison où moi je suis né, il y a également une jeune athlète qui s'appelle Barbara Mantzik, qui a été aussi après record woman de France du saut hauteur en junior. Donc il faut croire qu'il y a eu quelque chose là, on est tombé, il y a une étoile particulièrement bienveillante sur le plan sportif.
L'apprentissage des champions passe souvent par la rencontre déterminante avec un entraîneur. À Oigny, Guy Dru tombe sur un éducateur hors pair, Pierre Legrain.
J'ai eu un professeur d'éducation physique qui m'a, lui, apporté beaucoup au niveau de la formation générale et surtout particulièrement sur les haies, parce que comme il était sorti de l'ENSEP, il a dû avoir comme prof un type exceptionnel qui s'appelle Gilbert Omnes, qui malheureusement nous a quittés depuis maintenant pas mal d'années. Et qui a su me prendre, quoi, qui savait, faire fructifier le bon patrimoine, mais aussi calmer un petit peu les enthousiasmes malsains, quoi. C'est-à-dire que quand j'avais l'intention ou l'impression de me prendre pour un peu plus fort que je ne l'étais, bah, il savait tout à fait me dire, bon, allez, reste tranquille, calme-toi, et puis c'est pas la peine de prendre le cigare tout de suite.
Vous étiez bon footballeur, vous étiez doué en athlétisme, mais pas seulement sur les haies. Il y avait les haies, il y a la perche, on verra, il y a le décathlon aussi. Au début, c'est la perche qu'on vous a tendu.
C'est vrai que, bon, pourquoi c'est ridicule de jouer les faux modestes. Pour être champion olympique, il faut avoir un minimum au départ, quoi. Il y a évidemment le travail qui fait beaucoup, mais il faut avoir un peu plus de dons que les autres. Et moi, j'ai toujours aimé le stade. C'était mon royaume. Et je m'y sentais bien. Donc je pouvais passer des heures et des heures à m'amuser, à chercher, à essayer de comprendre, à ressentir des gestes, à essayer de trouver des nouvelles techniques, que ce soit sur le comportement général ou pour toutes les disciplines, qu'elles soient des disciplines de vitesse, de détente, de force, d'agilité. Et c'est vrai que, bon, impossible pour moi de ne faire qu'une épreuve. J'arrivais sur un stade, bon, je sautais en hauteur, je sautais un peu en longueur, je lançais le poids, je lançais le disque. S'il y a une perche qui traînait, je sautais à la perche. Et puis après seulement, au bout d'une heure, une heure et demie, je commençais à m'échauffer pour faire l'entraînement spécifique du moment.
Pourquoi cet amour du stade? C'est un havre de paix, le stade?
J'en sais rien. C'était le jardin public quand j'étais gamin. C'est vrai qu'il y a des chansons qui sont exceptionnelles sur la qualité de l'ambiance du nord de la France, hein, que ce soit Bachelet, que ce soit Massias, tous les poètes aussi qui ont su retranscrire un petit peu ce qui se passait dans le nord. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que le paysage, l'environnement, c'était pas la Méditerranée, quoi, c'était pas la Provence. Et en fait, le stade, pour nous, pour moi, c'était un peu le jardin public, c'était un grand jardin. où dans la mesure où on respectait, bien entendu, le patrimoine, on respectait les plantations, le matériel, etc., on pouvait tout faire. C'était jamais fermé, le stade était jamais fermé. Donc on pouvait y aller à toute heure du jour, de la nuit, mais ça c'était pour plus tard. Et moi je m'y sentais bien, je m'en sentais bien parce que, en toute liberté, puis personne ne venait m'embêter, donc ouais, je pouvais, même tout seul, je pouvais rester tout seul, ça ne me posait aucun problème.
Donc au début de votre carrière, c'est la perche qui vous inspire, hein. Comment vous allez faire pour choisir votre discipline ?
Bah, elle va un peu s'imposer à moi, si vous voulez. Bon, quand je suis arrivé à l'Étoile d'Oigny, au club, la première chose, la première épreuve qu'on m'a fait faire, que le grand m'a fait, il m'a foutu un disque dans les mains. Il m'a dit, bon, tu vas apprendre à lancer le disque. Je trouvais ça un peu bizarre parce que je devais peser 40 kilos à l'époque. Et puis après, j'ai compris. Un athlète à Oigny devait tout savoir faire. Courir, sauter, lancer, courir vite, courir longtemps, bon. Et puis, un jour, il m'a dit, bon, je vais t'apprendre à sauter à la perche. Et puis là, ça a été vraiment la révélation, quoi. C'était vraiment une épreuve exceptionnelle, extraordinaire, parce qu'il faut courir, il faut sauter, il faut être puissant, on reste longtemps sur le stade, donc tout y était. Et puis, pour être bon à la perche, il faut s'entraîner sur l'haie aussi. Et curieusement, un jour, j'ai fait un entraînement, et c'était le fils de l'entraîneur qui me chronométrait, et il m'a pris dans le temps du record de France, sur 80 mètres haies en cadet. Alors, bon, il s'est demandé si ça allait bien. Il est allé voir son père, l'entraîneur, Pierre Legrain, en lui disant ce qui s'était passé. Bon, il s'est commencé par se faire engueuler parce que, manifestement, personne ne le croyait. Et on a refait un test, et rebelote, j'ai refait le record de France. Alors, ils se sont dit, là, il y a quelque chose. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Si on avait gardé à l'époque les techniques et le matériel d'antan, c'est-à-dire les perches en duralume et puis les aires de réception en sable, etc., je crois que j'aurais continué à la perche beaucoup plus longtemps. Mais comme il commençait à y avoir la fibre de verre avec les réceptions en mousse, ça coûtait quand même beaucoup d'argent. Les perches, plus le sautoir, plus l'air de saut, d'élan en synthétique, le club était trop pauvre pour se payer ce genre de matériel. Ce qui fait que, une haie, c'est une haie, ça on en avait, une piste, il y en avait une. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai, petit à petit, je me suis orienté vers les haies, puis ça marchait. Donc pourquoi pas continuer ?
Guidru, ce Pierre Legrain dont vous parlez, qui a été votre premier entraîneur, oui. Ça a été une rencontre importante pour vous. Quelle était la teneur de son message ?
Je crois que Pierre Legrain est un homme entier, un homme de terrain, qui savait sublimer les gens et qui savait aussi, et qui sait toujours, parce qu'on vient de fêter ses 80 ans il n'y a pas longtemps, et je peux vous dire qu'il est encore en pleine forme. Il avait des valeurs humaines extraordinaires, il savait les communiquer. Et surtout la notion de respect de tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure, du respect de la règle, du respect de l'individu, du respect du matériel. Il y a plein d'anecdotes, si vous voulez, qui me passent à travers la tête. Et, bon, à Oigny, il n'y avait pas, une fois qu'on était en habit de sport, il y avait des fils de pharmaciens, des fils de médecins, des fils d'ingénieurs, mais aussi des fils de mineurs. Mais on était tous les mêmes. On commençait à vivre l'immigration maghrébine avec les mines. Il y avait eu avant, bien entendu, l'immigration polonaise, italienne et tout. Donc, il y avait un melting pot extraordinaire. Et je peux vous dire que il n'y a jamais eu le moindre signe de racisme parce que ça, c'était totalement intolérable. Un jour, j'étais déjà assez capé, quand je devais être. J'étais champion de France plusieurs fois. Et je préparais les Jeux de Munich et j'avais fait quatrième au championnat d'Europe. Enfin, disons que j'étais parmi les meilleurs athlètes français. Et j'avais fini mon entraînement. Puis il est arrivé à la maison. Tout le monde était content de le voir. Puis il me regarde et me dit, tu t'es bien entraîné ce matin ? Je dis, oui, j'ai fait ça et ça et ça. Il dit, c'est très bien, mais t'as rangé tes... Alors, avec un petit sourire narquois, alors j'ai dit non, j'ai dû oublier. Ben, il me dit, c'est pas très grave, tiens. Il m'a donné la clé du local où on rangeait le matériel. Puis il m'a dit, je t'attends. Je vais boire l'apéro avec tes parents, puis je t'attends. Et j'ai juste eu le droit de me taire. J'ai repris la voiture. Je suis allé ranger mes tout seul sur un stade désert. Puis en rentrant, j'ai refermé la porte. Puis je lui ai rendu les clés. Et c'était à moi de lui dire merci.
La légende du sport, Denis Soula, Joël Spindel.
Guidru, de la carrière, quelquefois, tient un peu de choses. Il y a un grand tournant pour vous, c'est en 1968, le mémorial Mérican. Oui. On vous inscrit à la perche. Oui. Et puis pas de chance. Oui. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, pas de chance parce qu'il y avait c'est Pierre Legrain qui voulait m'inscrire à la perche, et Bobin qui était aussi quelqu'un d'exceptionnel dans son genre, et un peu maquignon, mais au sens propre du terme, quoi, c'est-à-dire au noble, c'est-à-dire qu'il avait un pif extraordinaire pour déceler les comportements des uns et des autres. Il avait dit à Legrain, non, il est pas, il y a plus de place pour la perche, je peux pas l'inscrire, mais si tu veux, il reste une place dans le 110 mètres haies pour en course B. Et je l'ai gagné. J'ai gagné la course B dans un temps qui approchait d'un dixième le record de France junior. J'avais fait premier en 14-4 et en battant des types qui étaient quand même assez capés en senior. Et c'est là où on s'est dit, bon, ça a été mon premier coup d'éclat, quoi, vraiment.
Et quelques semaines après, à Dole, lors d'un France URSS, vous allez faire 14-1.
Je vais faire 14-1 pour commencer, 4-72 à la perche pour finir. Et c'était le 26 juillet 68 parce que c'est le jour anniversaire de mon père, donc je m'en souviens très bien.
Guy Drut, vous allez donc à la perche, bon, au 110, on voit, vous êtes très très doué. Et puis, il y a aussi le décathlon, vous allez donc hésiter. Est-ce que toutes ces hésitations n'ont pas quelque part ralentit un petit peu votre progression, même si vous allez toucher au but?
Non, je crois pas. J'adorais l'athlétisme en général, j'adorais être sur le stade. Et puis, vous savez, dans un club, c'est toujours intéressant d'avoir un type qui touche à tout et qui peut ramener des points. Dans les interclubs ou dans les matchs que nous faisions à l'époque, il y avait beaucoup de matchs interligues, c'est-à-dire Flandre-Alsace, Flandre-Lorraine, etc. Je faisais 5 ou 6 épreuves, quoi. Je faisais le relais 4x100, plus le 110, le 100 mètres, la longueur, le triple saut, le javelot, la perche, enfin, ça arrivait assez souvent, quoi. Et donc, non, moi, ça m'amusait. J'ai toujours fait ça. Je me considère... Pour ça, souvent, on me dit, oh, t'as toujours l'air de bonne humeur. Et je suis toujours de bonne humeur parce que je me considère comme un privilégié de la vie. Vraiment, je vais avoir 50 ans à la fin de l'année. Bon, j'ai eu des moments très difficiles, comme tout un chacun. Mais si je fais le compte, à 85%, j'ai toujours eu de bons moments. Et par rapport à ce qui se passe autour de soi, bon, bah, c'est ça qu'il faut retenir.
On le voit, vous avez une progression rapide. Quand on est môme comme vous avez 16, 17 ans, 18 ans en 68, et que vous arrivez à un certain niveau, comment on le vit, ça?
On le vit bien. C'est toujours plus facile d'être premier que dernier. Hein. Faut être tout à fait honnête. En plus, bon, Wagny, Pas-de-Calais, ou alors Douai pour le lycée, ou toutes les petites villes d'alentour. Bon, le gamin de 18 ans par rapport à toutes les jeunes filles par rapport aux copains et tout, qui passent un peu à la télé, qui est dans le journal, et bon, ça se présente bien, il faut être tout à fait honnête. C'est très agréable à porter.
Guy Drut, vous avez dit à l'époque, rien ne me semblait dur, ni l'hiver, ni la pluie. Oui. Vous avez dit, j'étais en croisade permanente. Mmh. Pourquoi?
J'ai été élevé à la dure. J'ai été élevé. J'ai tenté le record de France, ou soit la perche en hiver, il faisait moins 7 dans la salle. Et puis, ben, c'est aussi, je le dois aussi à la façon dont j'ai été éduqué sur un plan sportif, avec non seulement cet entraîneur Pierre Legrain, mais tous ceux qui étaient autour de lui. Il y a des gens comme Bronek, Blonsky, Maurice Termotte, Claude Lichtenvoet, puis plein d'autres copains. On n'avait pas le droit de se plaindre. En plus, mettez-vous bien dans la tête que j'étais pratiquement toujours avec des jeunes mineurs. Un mineur qui travaille au fond de la mine, à l'époque, son espérance de vie, c'était 45-50 ans avec la silicose. Dans la mesure où il brillait sur le plan sportif, son premier privilège, c'était de ne plus travailler au fond, de travailler au jour. Et il gagnait d'un seul coup 20 ans de vie. Vous vous rendez compte d'une motivation. Donc ces gens-là, et dans le Nord, on est gays. Donc c'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais posé de questions et je me suis toujours satisfait de mon sort.
Oui, mais votre croisade permanente, c'était contre quoi? Parce que je crois que vos parents avaient eu quelques déboires professionnels et vous en étiez un petit peu... C'était un petit peu douloureux pour vous. Est-ce que c'était aussi une espèce de revanche sur le sort?
Et j'ai eu une enfance, une adolescence extraordinaire. C'est vrai que mon père avait un commerce et qu'à l'arrivée des grandes surfaces, tout ça, ça a été un peu difficile à supporter. C'était un moment où c'était même pas mon échec, c'était leur échec que j'ai eu du mal à supporter. Et je voulais sans arrêt m'affirmer, mais ça, c'est un besoin personnel. C'est parce que je suis fait comme ça. Et j'avais un prof d'histoire en troisième, Monsieur Coeur, je me souviens de son nom, qui nous avait dit, l'essentiel, la réussite, c'est d'abord de se satisfaire, d'avoir une reconnaissance par rapport à soi-même et de se sortir du lot. Et moi, je trouvais que pour me sortir du lot, du troupeau, la meilleure façon d'y parvenir, c'était par le sport. C'est la raison pour laquelle j'étais motivé. Puis je vous dis, je préfère être premier que deuxième.
Mais commençons par cette brillante démonstration des athlètes français à Zurich. Ils sont en tête devant les soviétiques et un record du monde a été frôlé.
Août 1970, un document INA.
Thierry Roland, à Zurich, c'est l'enthousiasme dans les rangs tricolores.
Formidable journée pour l'athlétisme français aujourd'hui à Zurich pour la première partie de la demi-finale de la Coupe d'Europe. À l'origine, on pensait que les athlètes français devraient lutter deux jours durant pour se qualifier pour la finale aux dépens des Anglais. Et maintenant, après 10 épreuves sur 20, on se prend à rêver la qualification en poche. En effet, les protégés de Robert Bobin, qui fêtera demain son demi-siècle, ont ce soir 20 points d'avance sur la Grande-Bretagne. Et aussi, et cela est très important, un point d'avance sur les Soviétiques. Un point, c'est peu et c'est beaucoup à la fois. 6 victoires jalonnent ce merveilleux samedi où l'étincelle fut allumée par un nordiste de 20 ans, Guy Druth, 13 secondes, 3 dixièmes au 110 mètres haies, record de France battu de 3 dixièmes de seconde, à 1 dixième du record du monde.
Guy Druth, premier du 110 mètres haies en 13 secondes et 3 dixièmes, c'est tout simplement exceptionnel, extraordinaire, on s'attendait de dire. Est-ce que vous êtes surpris vous-même par cette performance?
Oh, la surprise, je crois qu'elle est venue du podium où... Enfin, ils avaient d'abord annoncé 13-4 et après presque une demi-heure de délibération, et ça a été 13-3 qui a été annoncé.
Qu'est-ce qui vous satisfait le plus, cette victoire sur David Evry ou ce record de France de la spécialité?
Bon, ça se complète parce que j'avais quand même une revanche à prendre sur Emery, qui m'avait battu l'année dernière à Athènes pour les championnats d'Europe. Et puis donc c'est une revanche et c'est un point pour moi. Et puis ce record de France qui quand même ça représente une étape puisqu'il n'est plus maintenant qu'à un dixième du record du monde.
Au soir de cette grande victoire sur 110 mètres haies, êtes-vous encore plus que jamais un perchiste?
Évidemment, quand j'étais à 13-7, 13-8 au 110 mètres haies, c'était autre chose parce que ça fait... C'est un bon résultat mais sans plus, alors que maintenant 13-3 ça me place directement dans l'élite mondiale. Je pense que ce serait ridicule de tout laisser tomber pour ne faire que de la perche où j'ai encore tout à apprendre. Donc je crois que pour le moment c'est les haies qui priment, mais pour la perche on verra bien.
Vous allez être longtemps premier, souvent premier, mais en 71 il y a premier déboire, ouais. Ce championnat d'Europe à Helsinki.
Bon, il y en a eu d'autres des déboires. Mais ça, ça a été une première leçon, d'abord parce que dans la stratégie de course, parce que c'est une année 71 où j'avais passé la première année le professorat d'éducation physique, qui est quand même assez éreintante, et en série, j'ai voulu en mettre plein la vue à mes adversaires, ce qui fait qu'au lieu de commencer doucement, j'ai explosé sur la troisième haie, et puis voilà, quoi. Après j'avais que mes yeux pour pleurer, mais la leçon a été bien retenue. Puisque ensuite, dans les grandes compétitions, les championnats d'Europe ou les Jeux Olympiques, j'avais une progression beaucoup plus raisonnable.
La légende du sport, Denis Soula, Joël Spindel.
Guy Druth, en 1972, vous allez participer à vos premiers Jeux Olympiques à Munich. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, l'idée des Jeux Olympiques, l'esprit?
Avant d'y venir, c'était un rêve qu'on allait toucher, qui allait se matérialiser. En plus, j'avais tellement entendu parler des jeux de Mexico, j'avais passé mes nuits, avec le décalage horaire, je me souviens avoir pleuré comme une madeleine avec Besson, avec Colette quand elle était sur le podium. Puis j'avais vu mes copains avec lesquels je m'entraînais. J'avais regardé, bon, c'était Elliott en hauteur, c'était Pagny en longueur, c'était Ugolini, c'était Boxberger sur 1500 et Jean-Claude Nallet, tout ça. Et donc après, il m'en avait tellement parlé que je ne pouvais pas faire autrement que d'imaginer. Puis j'y étais déjà, quoi. Et j'ai pas été déçu.
Pour préparer ces JO, Guy Drouille, vous montez à Paris, ce qui va être une transition importante dans la vie d'un môme, d'un jeune homme. Vous avez 22 ans. Vous venez vous installer à Paris et travailler à l'INS.
Bah, c'est-à-dire que comme j'avais fait un peu de bêtises sur le plan des études, et en fait, je ne m'étais pas vraiment entraîné. 71, c'est une année un peu bizarre. Je rentre en P1 donc pour professorat, mais je ne consacre pas suffisamment de temps et d'énergie aux études, donc j'ai cuté l'examen, et pas suffisamment de temps et d'énergie à l'entraînement non plus, et je suis tombé donc à Helsinki. Alors je me suis dit, il faut quand même que j'essaye de rattraper ce temps perdu. Ce qui fait que je me suis organisé pour aller à l'armée, pour passer mon service militaire, et en même temps pour représenter P1 en candidat libre. Donc je suis sorti, je crois même que je suis sorti major ou presque dans les tout premiers. Et puis là, les Jeux, l'objectif était simple, c'est que j'étais à peu près sûr d'aller en finale sur les temps qui étaient les miens. Et donc je m'étais dit, en finale, ça ce serait quand même bien. Être aux Jeux Olympiques, participer aux Jeux Olympiques, c'est bien. Être en finale, c'est mieux. Le podium, si vraiment, etc., etc., la troisième place, si vraiment, et j'avais pensé à ce moment-là, si un Américain se blesse ou tombe. Et puis, j'ai fait deuxième à la régulière, donc là, ça m'a un peu ouvert les yeux sur l'avenir, quand même.
La nuit tombe actuellement sur Munich, et pour les journalistes français, encore présents au stade olympique, dont Thierry Roland, c'est le moment idéal pour savourer la médaille d'argent de Guy Drut.
7 septembre 1972, un document INA.
Oui, d'autant plus que nous n'en aurons certainement pas d'autres à savourer de médailles et celle d'argent obtenue par Guy Drut derrière l'inaccessible Milburn, eh bien elle vaut tout l'or du monde. Milburn était en effet imbattable, comme peut l'être par exemple un Eddy Merckx dans le Tour de France ou un peu plus loin un Fausto Coppi lorsqu'il prenait part à une épreuve. Donc la médaille d'argent de Guy Drut vaut son pesant d'or et c'est fort bien qu'il l'ait remportée. Milburn est champion olympique du 110 mètres haies en 13 secondes 2 dixièmes, ce qui égale le record du monde. Guy Drut est deuxième en 13 secondes 3 dixièmes, ce qui égale le record de France. Puis viennent deux Américains, Thomas Hill et Willie Davenport, que le jeune Français les ait battus, constitue déjà un exploit. Écoutez ce qu'il a dit à Pierre Salviac.
Ça aurait été utopique de croire alors, puisque Milburn est vraiment très très fort. Et j'ai toujours estimé, lui en forme et moi en forme aussi, la marge qui nous séparait à un mètre. Et je pense qu'il y a un dixième exactement ici, ça s'avère exact.
Guy Drut, est-ce qu'aujourd'hui, à Munich, on vous a vu pour la dernière fois sur les... N'allez-vous pas maintenant vous orienter vers la perche de façon définitive ?
Disons que je ferai de la perche aussi, sérieusement, à partir de l'année prochaine, donc. Mais c'est pas pour ça que j'abandonnerai les haies, puisque je me sens incapable de me fixer dans une spécialité, quelle qu'elle soit. Et pour être bon à la perche, il faut être bon aussi sur les haies, je pense, pour avoir une course haute. Enfin, ça, on entre dans le domaine technique. Et puis il faut dire aussi que j'ai un titre indoor à défendre et je prends pour une question d'honneur de le remettre en jeu, dis donc, l'année prochaine, quoi, c'est comme les boxeurs.
Vous savez, Guy Drut, que cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Munich vous donne maintenant beaucoup de responsabilités. Vous êtes plus que jamais le porte-drapeau de l'athlétisme français qui n'a pas été très brillant ici à Munich. Est-ce que ça va changer votre vie maintenant ?
J'espère que non, j'espère que ça ne changera pas ma vie, j'espère que si ça pouvait changer la vie de l'athlétisme français, ce serait... Alors là, je serais vraiment en colère de ne pas avoir gagné l'or.
Guy Drut, vous avez remporté la médaille d'argent, par la même occasion vous avez égalé votre record de France, on peut donc considérer que vous avez rempli votre contrat, mais ce n'est pas le cas de vos camarades de l'équipe de France.
Ça dépend lesquels, vous savez, évidemment, les Jeux Olympiques sont pas quand même une compétition normale. On ne peut pas comparer ça à des championnats régionaux ou aux challenges américains. Mais je pense que beaucoup d'athlètes ont souffert justement de ce manque de compétition à un haut niveau. Et aussi, je pense qu'ils sont trop enfermés sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ouvrent pas assez les yeux, ils courent un peu avec des visières. Moi, quand je vais dans un pays à l'étranger ou quand je vois un coureur à l'étranger, je l'observe, je regarde comment il s'entraîne, ce qu'il fait, tout ça. Et après, je fais une synthèse, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, j'ai la médaille d'argent, je sais que c'est à moi que je le dois.
Mais on met l'entraînement en cause pour les Français.
C'est ce que je suis en train de faire, mais enfin, j'essaye de ne pas être trop virulent, parce qu'après, ça va me retomber sur les épaules. Et il faudrait justement que les athlètes prennent conscience que c'est d'abord eux qui fournissent l'effort, qui font l'effort. Et que si j'étais tombé ou si j'avais fait quatrième ou cinquième aujourd'hui, le seul responsable c'était Guy Dru. J'ai fait deuxième, le seul responsable c'est Guy Dru. Alors que d'autres justement ne l'ont pas encore compris, ça c'est bien dommage pour eux.
Guy Dru, vous avez quand même un sacré caractère parce que votre seconde place, ça vous satisfait pas. Vous avez dit si je travaille, je peux être hors d'atteinte. C'est un discours qui tranche quand même à l'époque avec le profil bas français. Vous l'assumez complètement ?
Oh, complètement. De toute façon, j'ai toujours assumé ce que j'avais. J'ai toujours trouvé plus facile de dire les choses, moi. Même si de temps en temps ça m'est revenu comme une volée de bois vert, mais c'est pas très grave. Oui, manifestement, j'avais remarqué que pour faire deuxième aux Jeux Olympiques, sans avoir quand même une préparation exceptionnelle de qualité et de suivi, il y avait quelque chose. Donc l'objectif suivant, c'était pas de dire je vais refaire deuxième, c'était automatiquement de dire je vais faire premier. Et j'ai passé 4 ans avec cet objectif-là.
Le retour à dans le Nord, c'était quelque chose. D'abord, vous rejoignez Jazzy, hein, qui a fait deuxième lui-même. Donc, les deux gars de la même rue qui arrivent sur le même podium. Et pour vous, ça va être une grande fiesta.
Ah ben oui, il y avait la fanfare, c'était l'événement, quoi. C'était l'événement dans la municipalité. Vous savez, Oigny, c'est une petite ville, 7-8 000 habitants. On ne peut pas s'imaginer ça aujourd'hui et à quelques kilomètres de Paris. Mais quand on est... Dans un pays, il faut se retourner presque 30 ans en arrière, où il n'y a quand même pas grand-chose qui se passe, et où le sport est quelque chose quand même de très important, puisque je vous rappelle quand même que Oigny, c'est à 7-8 km de Lens, et on voit ce que c'est que l'enthousiasme lensois quand il s'agit de sport en général et de football en particulier. Nous, c'était pareil. Alors, imaginez... Un tigre du coin qui fait deuxième aux Jeux Olympiques, bon, il fallait que ça se fête dignement. Alors il y a eu la fanfare, on m'avait attendu sur la route et tout, il fallait que je me gare. Puis après, j'ai été accompagné jusqu'à la mairie, etc., etc., tous les flonflons, quoi. Mais c'était merveilleux parce que tellement spontané, tellement sincère en plus.
Un symbole, Guy Dru, vous êtes descendu à la mine. C'est important.
Oui, c'était important. C'est plus tard, ça. On était descendu à la mine avec quelques amis, avec Michel Jazzy notamment, et quelques amis des Vanupiers, mon équipe de football, qui était donc qui avait été montée par Michel Jazzy. Et moi, j'étais jamais descendu au fond, et eux non plus. Donc, on a passé toute une journée au fond de la mine, et c'est quand même assez impressionnant. Et c'est une visite guidée, hein. Donc, quand elle n'est pas guidée, on s'imaginait un petit peu ce que ça faisait. Je sais que ce qui était effrayant, c'est que on est descendu toute la matinée, et puis le soir, on a joué au foot. Mais y en a qui, encore le soir, mouchaient de la poussière du charbon, quoi. Donc vous imaginez un petit peu le type qui passe sa vie là-dedans, les poumons dans quel état il devait être. C'est là où on se rend compte un petit peu du privilège que nous pouvions avoir.
Ça remet les idées en place.
Oh là, il y a ça qui remet les idées en place. Il y a aussi le fait, et ça c'est bon, c'est le président du Stade Français, Raymond Laure aussi, qui avait beaucoup, beaucoup d'influence sur moi, qui un jour où je faisais un peu la gueule, il m'a dit, tiens, demain matin, je te demande un service, tu me demandes rien, mais tu viens avec moi sur le coup de 6h du mat. Tu vas voir, tu vas pas regretter. Alors je croyais qu'il allait m'emmener faire un petit truc, une petite fiesta, ou faire un tour au Hall, ou quelque chose comme ça. Mais non, pas du tout, on a passé une heure dans le métro. Et il m'a dit, tu vois, les gens, là, eux, ils font ça tous les matins, ils vont au boulot, pour les plus... et ils ont de la chance d'avoir du boulot. Et en plus, ils auront 4 semaines de congés payés, alors que toi, t'es jeune, t'es pour aller, tu prends l'avion, t'as ta photo dans le journal, tu passes à la télévision, tu voyages, tu vas dans les plus beaux hôtels du monde, et tu te plains. Et j'ai dit, oui, d'accord. Ça va, j'ai compris.
Merci à Guy Dru, merci aussi à Christiane-Denis Lecève, ainsi qu'à Florence D'Artois de l'Institut National de l'Audiovisuel.
C'était Guy Dru ou l'histoire d'un homme pressé, premier des deux numéros de La Légende du Sport, proposé par Joël Spindel et Denis Soula. Première diffusion sur Radio Bleu le 4 juin 2000. À suivre.